Au nom de notre présidente que vous voyez dans le petit écran là, et de notre directeur qui n'est pas là, et de toute l'équipe du CIF, et vous en avez une belle échantillon ici. Voilà, je vous dis bienvenue pour cette seconde année au CIF que nous allons ouvrir ensemble. Bienvenue aussi s'il y en a l'un ou l'autre parmi vous qui vient juste pour la journée, parce que c'est possible, et qui voilà, continueront peut-être au CIF plus tard. Voilà, vous avez vu qu'on a un petit déploiement technique, puisque vous allez un peu servir de cobaye. Bon, mais vous êtes grand, vous êtes habitué. On a appris avec le confinement à quel point le travail par Zoom pouvait faciliter la tâche à certains. Et donc, on essaye pour la première fois de faire à la fois du présentiel, le mot n'est pas beau, mais il est là, et du Zoom. Donc, il y a un peu de problèmes techniques. Je suis un peu enchaînée par un fil ici. Et je n'ai pas le droit de bouger. Voilà. Mais on va tout de suite plonger dans notre sujet. C'était vraiment quelqu'un d'intéressant. Et un peu lui enlever l'espèce d'aura épouvantable qui l'entoure. Il passe pour doctrinaire, rigoureux, misogyne. En plus, comme il est incompréhensible, ce n'est pas grave. Et moi, je voudrais vous présenter autre chose. En vous présentant Paul, du même coup, je vais essayer de vous présenter ce que l'on sait de ces toutes premières églises, on va les appeler églises, c'est le nom que Paul leur donne, chrétiennes, en monde grec, en monde païen ou en monde gréco-romain, et que c'est la première rencontre que l'on peut faire aussi haut qu'on puisse remonter avec des églises chrétiennes. Voilà. Et donc, c'est une introduction aussi au cours que la plupart vont suivre, qui est le cours d'ecclésiologie de Anne Righini, qui est là derrière son écran pour gérer le Zoom. Voilà. Alors, vous avez pour me suivre le PowerPoint. Vous avez aussi un dossier qui est plus en fait des notes pour après que pour me suivre aujourd'hui, encore qu'on en aura besoin pour lire des textes. Ce dossier veut éviter que vous ayez à noter. Vous avez dedans 5 ou 6 documents qui sont chacun pour une des 4 parties de la journée. Le premier document, c'est une introduction qui est entièrement rédigée. Vous n'avez pas de notes à prendre, vous retrouverez tout. Le deuxième est un plan des 3 quarts suivants de la journée. Et ensuite, vous avez pour la fin de matinée, le début et la deuxième partie d'après-midi, des dossiers avec les textes et quelques explications. Dans l'ensemble, vous avez à peu près tout qui est écrit dans votre dossier PARM, et donc vous n'avez pas besoin d'écrire trop. Par contre, vous avez besoin de noter les questions que vous voulez poser, car on va faire des moments de questions, évidemment. Je m'explique tout de suite sur le titre du dossier, qui est évidemment un titre volontairement, non pas provocateur, mais qui pose question, Paul fondateur d'église au pluriel. On a dit, tout au long du fin du 19e, 20e siècle, on a beaucoup dit que Paul était le fondateur du christianisme, l'inventeur d'une nouvelle religion, même le fondateur de l'église, et que Jésus aurait été un rabbi juif, ça s'est beaucoup dit dans le monde juif, un rabbi juif qui serait resté dans le sein du judaïsme. Alors, et en plus, il y a eu des séries télévisées, tout à fait bardé de références savantes pour essayer de montrer que Paul était bien le fondateur du christianisme, tout en, évidemment, tordant complètement la pensée de Loisy sur la question. Bon, la série télévisée, pour moi, est infâme à ce sujet. Moi, je m'explique sur le mot fondateur. Paul aurait hurlé, si on lui avait dit qu'il avait fondé le christianisme. Et lui ne parle jamais en termes de fondateur, il parle en termes de fondement. Et il dit très fermement, dans un développement qui est un peu polémique, mais Paul est toujours un peu polémique, il dit très fermement, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà en place, Jésus-Christ. Voilà. Donc le seul fondement, la pierre de fondation, sur laquelle les disciples, les apôtres, tous ceux qui vont vivre, au fond, la foi en ce Christ vont construire, c'est le Christ Jésus, et pas Paul ou un autre. Jésus lui-même ne peut guère être dit fondateur du christianisme ou de l'Église, même si on l'a dit aussi. Mais entendons-nous, il n'a pas fondé une nouvelle religion. Il n'a pas fondé l'Église comme on fonde une ONG ou une entreprise. En fait, si Jésus a transmis quelque chose qui va devenir ensuite le christianisme et l'Église, il l'a fait, et là j'emprunte l'expression à M. Maurice Vidal, prêtre de Saint-Sulpice, qui était un professeur de théologie et d'ecclésiologie absolument extraordinaire et qui vient de mourir cet été. Il dit Jésus sur la croix, et c'est la scène où Jésus en croix parle aux disciples bien-aimés et à sa mère qui sont au pied de la croix et les confie l'un à l'autre. Il dit à ce moment-là, Jésus fonde l'Église, mais par voie de dessaisissement, en s'en dessaisissant et en le confiant à d'autres. Comme, et moi j'ajoute, il a confié à d'autres, et c'est le cœur des trois autres évangiles, la question, et vous, qui dites-vous que je suis ? À eux de dire qui il est et d'avancer avec le mystère de son identité. Voilà. Alors, effectivement, Jésus n'ayant rien fondé comme religion, comme organisation, il fallait bien avancer, et Paul et d'autres ont été de ceux qui ont construit. Construit là-dessus quoi ? Eh bien, construit tout de suite des petits rassemblements. Parce que la foi chrétienne, elle commence d'abord par rassembler. Jésus n'a cessé de rassembler les foules, il a rassemblé les 12, il a rassemblé des femmes. Et à sa suite, la foi chrétienne se manifestera toujours par des rassemblements. On n'est pas chrétien tout seul et on ne peut pas dire, parce que ça n'a aucun sens, Jésus, oui, l'Église, non, parce que le message constitutif de la foi et de la résurrection de Jésus, c'est de rassembler. Et Paul, le premier, va donner comme nom à ces petits rassemblements locaux qui vont être d'abord des groupes dans les maisons de 5-10 personnes. C'est tout petit, et pendant longtemps, les premières églises chrétiennes, même si elles se répandent très vite, très loin. Paul va leur donner le nom d'Ecclésia, qui a donné, évidemment, calqué en latin Ecclésia et en français Église. Or, et ça je le dis tout de suite, Ecclésia, dans la bouche d'un homme du 1er siècle, c'est une incroyable dignité. Parce que ça renvoie à deux choses. Dans le monde grec, l'Ecclésia, c'est dans les cités, l'assemblée ou le rassemblement des hommes libres. Donc, évidemment, pas des femmes, le monde grec, mais des femmes à la maison. Mais des hommes, et des hommes libres par opposition aux esclaves, aux gens de passage, voilà, des citoyens libres. Or, Paul, lui, rassemble des hommes, des femmes, des enfants, des esclaves, des métèques, des hommes libres, et leur dit, vous êtes l'Ecclésia de Dieu. Il leur donne cette dignité-là. Vous êtes désormais libres, et vous êtes ceux qui vont, finalement, édicter et suivre les lois du royaume. Et puis, en monde juif, Ecclésia, c'est un terme qui est employé assez peu, mais quand même présent dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, pour désigner dans le Deutéronome le peuple de Dieu en marche. Le peuple de Dieu au désert, en marche vers quoi ? D'abord, il est libéré, puisqu'il a quitté l'Égypte, qui est le lieu de la servitude. Il a traversé la mer, un peu traversé la mort, et il est en marche vers le pays promis. Voilà. Être une ecclésia, c'est être donc une assemblée d'êtres libres, d'où que vous veniez, et être en marche vers le pays promis par Dieu. Rien que ça. Donc, Paul et d'autres vont œuvrer pour mettre en place, inventer, aider à ce que s'inventent ces petites églises. Et pourquoi nous choisissons de suivre Paul plutôt que Pierre, Philippe, Thomas, dont la légende, elle a des bases quand même, vu qu'il soit parti vers l'Est, très loin, et jusqu'en Inde, nous choisissons de suivre Paul, parce que c'est celui que nous connaissons le mieux et par qui nous connaissons le mieux les premières églises du monde qui va devenir un monde de plus en plus chrétien. Ça va ? Si je vais trop vite, si vous n'entendez pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est suffisamment peu nombreux pour que vous vous manifestiez immédiatement. Voilà. Alors, dans votre feuille, il y a une Bibliographie, mais on en parlera à midi. À midi va venir le libraire et donc autour de sa table, on parlera bibliographie. Pour le moment, je veux entrer dans les sources. J'ai dit que Paul était celui que nous connaissions le mieux et effectivement, dans ce petit livre qui est finalement le Nouveau Testament, on a 4 évangiles dans lesquels évidemment Paul n'est pas présent. On a les Actes des apôtres, dont Paul est le second héros, mais en fait le héros véritable. Il est pratiquement tout le temps au milieu. Et on a ensuite les lettres de Paul, qui, même si elles ne sont pas toutes vraiment de l'apôtre, montrent à quel point il a eu de l'influence et comment des courants chrétiens divers sont sortis finalement de son enseignement, de ses rassemblements, de ce qu'il a lui-même fondé, car il a bien fondé ces petites églises. Donc une grande partie du Nouveau Testament nous parle de Paul. Et donc il est notre voie la plus directe à ses commencements. Alors, j'utilise donc les 2 sources majeures. La première des sources, c'est les Actes des apôtres, même si elle est tardive. Hein, les Actes des apôtres, Luc l'écrit après son évangile, comme un deuxième tome. L'évangile doit dater des années 80 et les actes au moins des années 90. Luc, qui est un disciple de Paul, lointain, l'a-t-il connu directement? Ce n'est pas tout à fait sûr. En tout cas, un disciple bien renseigné. Les actes des apôtres nous offrent, pour les voyages de Paul, à partir du chapitre 9, qui est le récit de sa conversion, on y reviendra plusieurs fois, nous offrent pour les voyages de Paul un cadre chronologique qui est très intéressant, parce qu'on n'a pas beaucoup de cadres chronologiques dans le Nouveau Testament et que les lettres de Paul ne permettent pas d'en établir un suffisamment sûr. On reparlera de la chronologie, mais voilà à quoi servent les actes des apôtres, même s'il faut, quand on les utilise, être très prudent et très critique, comme d'ailleurs, comme toujours, quand on retourne à ces textes anciens qui sont les textes de l'Écriture. Ils ne sont pas tombés comme ça du ciel. C'est des textes d'auteurs, d'écrivains inspirés par Dieu, mais qui ont un projet bien défini. Et le projet de Luc est très clair dans les actes. C'est la marche de la parole de Dieu menée par l'Esprit Saint, qui est le moteur, et qui, confié aux apôtres, va partir de Jérusalem pour arriver à Rome à la fin des actes. Voilà, c'est la parole qui part à travers le monde occidental pour arriver où, selon le programme dit au début par le ressuscité, aux extrémités de la terre. Non, Rome n'est pas l'extrémité de la terre, mais à l'époque, elle en est le centre, ce qui est le centre de l'Empire. Donc, c'est cette marche que Luc décrit. Et dans cette marche, Paul est effectivement le deuxième héros après Pierre et d'autres, mais il occupe une place très, très importante et il est le modèle construit à ce moment-là par Luc, du juif converti, du juif qui est passé du judaïsme à une autre religion qui est déjà celle des chrétiens. Ce que Paul niera complètement, mais on est plus tard, à une époque où les deux voies ont commencé à vraiment se séparer, et Luc fait basculer Paul de l'une dans l'autre. Donc on utilisera les actes avec méfiance, prudence, très intéressant, mais voilà. On va utiliser à côté, et c'est ça qu'on va lire aujourd'hui, les lettres de Paul. Alors, le corpus paulinien dans le Nouveau Testament, celui qui est attribué à Paul et qui commence par « moi, Paul » et « un tel, un tel, un tel », comprend 12 ou 13 lettres. La lettre aux Hébreux, vous pouvez la sortir tout de suite. Elle est vraiment d'une autre origine et les gens l'ont compris très vite. Les lecteurs de Paul et pères de l'Église l'ont compris très vite. Mais ça fait au moins 12 lettres qui forment le corpus paulinien. En réalité, sur ces lettres, il semble bien, c'est mon avis, mais je le partage avec beaucoup de gens érudits, même s'il y en a qui le contestent, il semble bien qu'il n'y en ait que 7 qui soient vraiment pas de la main. Paul n'écrivait pas, il dictait. Il griffonne à la fin des lettres. C'est bien moi qui ai écrit cette lettre. Voilà ma signature en grosses lettres. Voilà, pour bien authentifier. Évidemment, il dictait. À la fin de la lettre aux Romains, le secrétaire de Paul, Tertios, salue la compagnie. C'est lui qui a écrit sous la dictée. Écrire, c'est un métier. Mais on considère qu'il y a 7 lettres parmi celles que nous avons, qui remontent authentiquement à Paul. Là, elles sont classées de diverses façons dans les sources anciennes, mais très vite, non pas par ordre alphabétique, ni par ordre d'écriture, parce que d'ailleurs, on en sait, c'est très flou, mais par ordre de longueur, de la plus courte à la plus brève. Ça fait un classement stupide, mais objectif au moins. Vous ne pouvez pas trop discuter. Voilà. Depuis Romains, en passant par 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens et la toute petite lettre à Philémon. Vous allez me dire où ont passé la deuxième aux Thessaloniciens, où ont passé Colossiens et Éphésiens, où ont passé les lettres à Tite, à Timothée. Pour moi, ce sont des lettres deutéro ou même trito-pauliniennes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas inspirées, hein. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. La lettre aux Éphésiens, si j'ai le temps, j'en dirai un mot en fin de journée, est la grande lettre sur l'Église de tout le Nouveau Testament. Il faut la lire, la travailler, etc. Mais aujourd'hui, je vous présente Paul. Eh bien, c'est d'une génération après, des disciples de Paul qui ont approfondi, acclimaté à un monde nouveau sa pensée. Et ça veut simplement dire, et c'est vrai aussi pour l'école johannique et pour les lettres de Pierre, que le Nouveau Testament a lui-même mis en route cette relecture de la tradition première qui doit être à chaque génération le travail de tout chrétien. Nous ne sommes pas des gens, quoi qu'en dise l'islam, que je respecte, nous ne sommes pas des gens du livre. Nous sommes des gens de la rencontre avec une personne et avec son mystère, Jésus-Christ. Et le livre, ce sont les témoignages des premiers qui ont rencontré, fait l'expérience de Jésus ressuscité, que l'Église s'est donné un moment comme référence et qui déjà met en marche la vraie tradition qui est relire et reprendre les écrits des prédécesseurs pour les comprendre et les réactualiser. Ça va, ça? Je vous trouble pas trop? Non? Bon, si vous marchez, c'est bien. Le premier écrit chrétien, ça, je crois que tout le monde est d'accord, c'est la première lettre aux Thessaloniciens, qu'on date à peu près des années 49-50, peut-être un peu plus tôt, certainement pas beaucoup plus tard. Donc, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et les lettres de Paul, ensuite, vont s'étaler sur une dizaine d'années, puisqu'à partir de 58, il est prisonnier à Rome. Alors, je vous donne ces dates pour que vous rendiez compte d'une chose. Aujourd'hui, on date l'évangile de Marc, là aussi qui est le premier, là aussi à peu près tous les exégètes et biblistes sont d'accord, d'autour de 70. Le désaccord porte seulement pour savoir si c'est 69 ou 71. Donc c'est bon, 70, ça marche. Vous voyez que c'est déjà 20 ans après la première aux Thessaloniciens. Voilà. Et déjà, Paul était connu. Les évangiles de Luc et de Matthieu, je l'ai dit, 80. Les Actes et Jean, 90. Donc on est vraiment dans ce que nous pouvons atteindre de plus tôt dans la mise par écrit de la tradition chrétienne, même s'il y a peut-être eu, avant les évangiles, des sources qui ont repris les paroles et l'enseignement de Jésus, ou déjà des premiers évangiles mis par écrit, mais de toute façon, on les a perdus. Donc voilà ce que nous avons. C'est Paul. Alors, maintenant, le message de Paul. Comment situer Paul dans ce début du christianisme ? Paul va nous montrer, mais nous le savons encore plus par les actes des apôtres, Paul va nous montrer que les premiers temps de l'Église n'ont pas été un temps idéal, idyllique, de paix sereine, de réconciliation et, j'allais dire, où tout baigne. Les premiers temps de l'Église ont certainement été un temps d'effervescence, de tout petits groupes locaux qui se sont répandus très vite dans l'Empire, mais c'était une poussière, c'était dérisoire, mais aussi un temps de conflit. C'est-à-dire que dès qu'il y a trois chrétiens, ils se battent, c'est bien connu. De toute façon, dès qu'il y a trois adeptes d'une même religion, ils font trois groupes différents. Donc, ce n'est pas très grave. Et ça, on l'apprend très bien dans les Actes des Apôtres, par exemple, où vous avez ce premier conflit à l'origine et qu'il faut vraiment garder comme exemple, l'avoir en tête, et l'avoir en tête comme aujourd'hui. Laisser par les apôtres de fonder une église, une communauté idéale, où il n'y aurait plus ni pauvres ni riches. Tout le monde apporte ses biens, les dépose aux pieds des apôtres et on les partage selon les besoins de chacun. C'est le communisme tel qu'on peut le rêver. Et bien, ça se passe très mal. Au bout de très peu de temps, il y en a deux qui viennent raconter des histoires, qui détournent une partie de leurs biens et qui viennent dire qu'on a tout donné. Alors, la mise en scène est évidemment dramatique et spectaculaire. Je rassure tout de suite, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça prouve qu'il y a eu des tensions, parce qu'ils tombent morts aussitôt aux pieds des apôtres. Châtiment du ciel. Ce que ça nous révèle, c'est que dès qu'on rêve une église idéale, on se plante. Voilà. Ne rêvez pas. N'essayez pas de vivre une église idéale. Elle est faite d'hommes, et là où il y a de l'homme, il y a de la femme. Il y a de l'hommerie, et ça ne va pas bien, et voilà. Et on rame avec ça, accompagné, et le cap étant maintenu par l'esprit. Alors, au centre de la mission de Paul, au centre de ce que Luc nous raconte dans les Actes des Apôtres, il y a ce qui a été le conflit majeur et déterminant pour la jeune Église, bien plus que l'idée qu'il ne faut pas une Église idéale, ça ils ont vite compris. Mais ce qui a été le conflit majeur et déterminant, ça a été, devons-nous rester au sein d'un judaïsme par ailleurs très diversifié ? Nous en avons parlé l'année dernière à propos du Nouveau Testament et du judaïsme dans lequel est né le mouvement de Jésus, très diversifié. Jésus vient des mouvements baptistes, et en même temps, il est très proche des pharisiens, parce qu'il est lettré, il dialogue avec les pharisiens. La construction du pharisien hypocrite, c'est une construction beaucoup plus tardive, même s'il y avait des pharisiens arrogants, et Paul en était un, évidemment. C'était diversifié, donc finalement, ce mouvement chrétien, évidemment considéré comme des gens qui n'étaient pas bien dans leur tête, parce qu'avoir un Messie crucifié, c'était quand même difficile. Enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas bien dans leur tête. Tant qu'ils continuent à aller au temple, à observer grosso modo la loi, à pratiquer la pureté de la table et à essayer de vivre sans faire des vagues, on ne voit pas pourquoi ça ne resterait pas un mouvement juif. Et de fait, à Jérusalem, celui qu'on a appelé le frère de Jésus, de la famille de Jésus, Jacques de Jérusalem, va rester sur place avec autour de lui une église chrétienne, mais très proche du judaïsme, continuant à pratiquer la loi. Or, ce Jacques de Jérusalem, on le sait par les récits d'Eusèbe de Césarée et même, je crois, de Flavius Joseph, donc très tôt, sera lapidé en 62 sur ordre à l'instigation des autorités du temple, toujours les mêmes qui ont soulevé la foule pour le faire lapider, malgré l'opposition très clair des pharisiens qui le défendaient. Voilà, on est dans un milieu juif lui-même. Voilà. Donc, tant qu'on est entre juifs, c'est difficile, et il y aura des querelles fortes, mais on reste au fond dans le sein d'un judaïsme qui a ses privilèges dans l'Empire. À partir du moment où Paul commence à baptiser des chrétiens, c'est-à-dire des païens, c'est-à-dire à faire rentrer dans la mouvance des disciples de Jésus, des gens qui n'observent pas, qui ne sont pas circoncis pour les hommes, qui n'observent pas la loi, qui n'observent pas la séparation des tables, ça va commencer à gripper. Ça va commencer à gripper très fort. La question, pourtant, pourrait être résolue assez simplement. Jacques de Jérusalem la résout, et c'est tout le problème qui se pose au centre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Est-ce qu'on va les forcer pour les hommes à être circoncis? Ou est-ce qu'on va dire, c'est pas grave, ils peuvent être baptisés sans être circoncis, mais des Jacques de Jérusalem qui pratiquent au moins les lois de pureté, la séparation des tables, voilà, qu'ils observent au moins, sur un certain nombre de points, la loi de Moïse. Donc, à un certain moment, on a plus ou moins accepté le fait que l'Évangile pouvait passer aux païens sans que ça mette à mal, quelque part, leur proximité avec le judaïsme. Très vite, évidemment, les païens vont laisser tomber toutes ces lois. Très vite. Et les chrétiens vont mettre en place leur propre, au fond, leur propre, sinon leur propre loi, du moins leur propre organisation. À partir de ce moment-là, on voit bien qu'il s'agit vraiment d'une querelle d'héritage, mais qu'on n'est plus à l'intérieur d'un même mouvement. La rupture, où Paul a donné quand même un premier coup de ciseau, même si lui se croyait juif, hein, et a voulu rester juif jusqu'au bout, la rupture va être à peu près inéluctable. Et puis à partir d'un certain moment, on va commencer à s'invectiver, et après, ben, des mots irréparables seront prononcés, mais simplement au milieu du deuxième siècle. Et je laisse, vous connaissez l'histoire ensuite, des rapports terribles entre judaïsme et christianisme. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe au milieu des Actes des Apôtres, cette ouverture aux païens, et pourquoi est-ce que Paul a été celui qui a donné le moteur, qui a donné vraiment l'envoi déterminant? Jésus n'avait pas laissé de message à ce sujet. Et les évangiles sont un peu trompeurs là-dessus. Parce que les évangiles, évidemment, sont rétroactifs. Et ils vont introduire dans la vie de Jésus, dans les actes de Jésus, un certain nombre d'actes où Jésus s'adresse directement, non plus à des juifs, mais à des païens. Ce qu'il a probablement un peu fait, mais très peu fait. Les évangiles de Marc et de Matthieu ajoutent un deuxième récit du partage des pains, ce qu'on appelle la multiplication des pains. Chez Marc et chez Matthieu, il y en a un en pays juif, puis deux chapitres après, un en pays païen. Luc, qui sait ce qu'il fait, n'en met qu'un seul en pays juif. Ça ne s'est pas passé deux fois. Marc et Matthieu veulent montrer que, allant de plus en plus loin, aux périphéries du monde juif, vers ceux qui étaient les plus exclus, les malades, les lépreux, les handicapés, les publicains, c'est-à-dire les collabos, ceux qui collaboraient avec les Romains, Jésus, en allant de plus en plus loin aux périphéries, a fini par aller aux périphéries des périphéries. L'impur, c'est le païen. L'impur, par excellence, c'est le païen. On est dans cette idée qu'il faut briser la foi chrétienne, et ça c'est vrai, que le message de Jésus va briser ces séries de cercles de pureté qui enfermaient le judaïsme. De façon plus ou moins serrée, suivant les groupes, certainement moins les groupes baptistes qu'à Qumran, où l'obsession de la pureté était omniprésente. Mais c'est quand même ça que Jésus a brisé. C'est ça que Matthieu et Luc montrent. Il y a aussi l'épisode de la Syrophénicienne, cette femme cananéenne, dit Matthieu, donc l'ennemi par excellence, la païenne par excellence, et qui vient se mettre au pied de Jésus et dire « Moi, comme j'accepte d'être comme les petits chiens, je grappille des miettes, mais sauve ma fille. » Luc n'a pas cette histoire-là. Ce que je essaye de vous dire par là, c'est que, au fond, ce n'est que assez vite, mais que progressivement quand même, avec des gens comme Paul, mais aussi comme Pierre, les actes le montrent, et du fait d'une conversion, parce qu'il y a vraiment une conversion de Pierre dans les actes des apôtres avant la conversion de Paul, ou après, ou juste après, non, juste après, du fait d'une conversion, les disciples de Jésus ont progressivement compris qu'ils devaient ouvrir large le message et l'annonce de l'Évangile au monde païen, et que c'en était fini pour eux que des restrictions et des cercles de pureté. Voilà. Que l'Évangile était fait pour les purs et pour les impurs, pour tout le monde. Et ça, ils l'ont compris, les actes des apôtres le montrent très bien, comment, alors je le dis avec un terme un peu abstrait, mais les actes des apôtres le montrent en termes imagés, moi je dis en allant jusqu'au bout de l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est aller aux périphéries, au bout du bout, les plus exclus. Les actes des apôtres vous disent, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va les pousser de plus en plus loin. Ça va ? Donc voilà, ça c'est au centre des actes des apôtres, c'est aussi au centre du message de Paul. Il faut aller jusqu'au bout, et là je vous l'ai mis un peu en gras, de l'universalisme potentiel du message de Jésus et du fait qu'il est mort non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Et ressuscité, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Même si ça inclut au long du chemin une déchirure avec tout ou partie du judaïsme. Ça va, vous m'avez suivi jusque-là, pas trop compliqué? Non? Je peux continuer? Alors, ce Paul maintenant, on revient à Paul et oui. Alors, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre. Oui. Vous avez complètement raison. Dans les Actes des Apôtres, il y a l'épisode du chapitre 10, et puis ça continue dans 11, 12 et même 15, de la conversion de Pierre. Je l'appelle comme ça puisqu'on parle d'une conversion de Paul. Conversion de Pierre, avec cette scène assez extraordinaire où Pierre a une vision. Alors vous allez dans l'église de Saint-Louis des Carmes à côté de l'Institut catholique et vous avez la vision de Pierre, vous vous envolez au ciel, il y a la nappe qui se déploie et sur la nappe, des animaux considérés comme impurs par le judaïsme. Et Pierre entend une voix qui lui dit « Tue et mange ». Et c'est impur, c'est pas possible, c'est pas possible. Et Pierre devra obtempérer et de la même façon, Pierre devra se déplacer, quitter la ville où il est et aller rejoindre le centurion Corneille, qui est un centurion bienveillant, proche du monde juif déjà, mais qui demande le baptême, qui lui aussi a été visité par l'Esprit-Saint. Alors, et l'Esprit-Saint travaille dans ces chapitres, parce qu'il passe son temps à faire l'aller-retour entre Pierre et Corneille pour arriver à les rapprocher. Qu'est-ce que ça veut dire, cette scène? Ça veut dire qu'au fond, Pierre n'était pas convaincu du tout. Pierre n'était pas convaincu du tout. Pierre, ayant pourtant vécu avec Jésus, je veux bien qu'il l'ait renié, mais enfin, ayant rencontré le ressuscité, ayant eu cette expérience inouïe que nous n'avons plus, d'avoir rencontré le ressuscité vivant, bon, et d'en être le témoin, n'avait pas du tout compris qu'il fallait passer le pas. Pierre était resté un bon juif, annonçant l'évangile aux juifs. Et donc, les Actes des Apôtres mettent en scène la conversion de Pierre et Luc, qui est malin, la met juste après la conversion de Paul. Vous remarquerez que Luc met d'abord en piste Paul. Chapitre 9, conversion de Paul. Chapitre 10, conversion de Pierre. Et au chapitre 15, lorsqu'on va avoir la réunion de Jérusalem, c'est Paul qui arrive. Alors, dans la version de Luc, il arrive faussement contrit, ou pas faussement contrit. Il arrive escorté de Barnabé pour demander la permission de baptiser des païens. On verra tout à l'heure, à la deuxième partie de la matinée, la version de Paul, c'est pas celle-là, hein, on revient tout de suite. Luc construit un Paul tout à fait, tout à fait respectueux de ses prédécesseurs dans la foi, les apôtres de Jérusalem, et qui vient demander, monsieur, est-ce que je peux la permission? Quand on connaît un peu Paul, on se dit, il y a un problème là, il a trafiqué, c'est pas possible, ça c'est pas passé comme ça. Mais c'est ça la mise en scène. Et c'est ça la volonté de Luc, c'est de dire, au fond, ça s'est passé avec l'assentiment et même la décision prise par les premiers témoins de Jésus. La décision s'est prise à Jérusalem, elle a été prise par l'assemblée des anciens et des apôtres, après un discours de Pierre. Si vous lisez bien le discours de Pierre au chapitre 15, quand vous aurez passé une petite journée sur Paul, vous verrez que son discours est complètement paulinien. Il défend Paul. Et après la décision de Jacques de Jérusalem, tout à fait solennelle, l'Esprit-Saint et nous avons décidé que, voilà, l'Esprit-Saint et nous avons décidé que nous pourrions baptiser des païens sans leur imposer la circoncision, on va quand même leur imposer des petites choses. Voilà. D'accord ? Donc, en fait, on a un montage de Luc pour montrer, je le dis tout de suite parce que je crois que c'est quand même ça le fond de l'affaire, que Paul était parti en franc-tireur, avait baptisé des païens, qui revient assez vite ou assez lentement, on en discutera tout à l'heure, mais qu'il a fallu, pour que ça ait droit de cité et que ça devienne le principe même de la mission chrétienne, l'accord de ceux de Jérusalem. Voilà. L'accord de ceux de Jérusalem, c'est-à-dire quand même des premiers témoins de Jésus vivant et ressuscité. Ça va ? Je ne vous ai pas trop troublé ? Actes des apôtres. Actes des apôtres, 9, 10. Lisez 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les actes des apôtres, ça se lit comme un roman. Vous pouvez même lire ça avant de vous endormir, ça marche. Mais ça vaut la peine. On voit bien cette espèce de mélange. Alors, Paul, pas Paul, non, Pierre. Et en fait, non. Il faut que ça se décide à Jérusalem. Voilà. Il faut que ça se décide à Jérusalem. Pour Paul, ça ne s'est pas passé, me semble-t-il, comme ça. J'essaierai de vous le montrer sur pièce en lisant le texte dans la seconde partie de la matinée. Mais Paul, lui, il se présente comme un passionné du Christ. On a parlé dans la Russie, du Moyen-Âge, des folles en Christ, de ces gens un peu perturbés qui partaient sur les routes pour annoncer le Christ sans chaussures. Voilà. Paul a été un des premiers. Une expérience bouleversante dont on verra que ce n'est pas facile à saisir. Et il finit par dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous direz, c'est prétentieux, certes, mais c'est Paul. Voilà. En fait, l'expérience de Paul, je la résume d'un coup, d'emblée, c'est que, pharisien lui-même, respectueux de la loi, persuadé qu'il était excellentissime, Paul n'a jamais eu de... Nietzsche le construit comme ça, mais il a complètement tort. Paul n'est pas un homme du ressentiment qui dit « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, mea culpa, je vais me faire chrétien pour arriver à être parfait ». Non, il était parfait depuis longtemps, Paul, et bien certain de l'être. Voilà. Et ça, on le lira, vous allez voir. Il était le meilleur en tout, et probablement issu d'une branche pharisienne assez raide, sinon rigoriste et un peu arrogante. Or, ce Paul découvre d'un coup que tout ça ne vaut rien. Devant Dieu, l'homme est sans qualité, il n'y a pas de mérite. Il est accepté, reconnu, aimé par pure grâce. C'est le grand credo du protestantisme, mais depuis un bon nombre d'années, les catholiques sont bien d'accord. Il y a d'abord la grâce de Dieu et l'initiative de Dieu. Ce ne sont pas nos petits efforts et nos petits mérites qui font de nous des gens aimés de Dieu avec la dignité que nous revendiquons quand même d'enfants de Dieu et voués au fond à devenir des frères du Christ. Donc c'est ça la découverte de Paul. Devant Dieu, l'homme est sans qualité et sans mérite. Et ça ne vaut pas seulement pour moi, Paul. Si devant Dieu, tous sont aimés également, ça vaut pour tous. Et l'évangile de Paul, il l'exprime de façon très lapidaire, tout par contraste. Mais Paul écrit comme ça, il va falloir vous habituer. Hein. C'est des phrases lapidaires, souvent exagérées. C'est un passionné, il exagère tout le temps. Et il a des formules très frappées qu'il faut décortiquer. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire, du point de vue juif, c'est la totalité du monde habité. Parce qu'il y a nous les juifs, les circoncis, les autres c'est des grecs. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. D'un point de vue sociétal, c'est la totalité de la société gréco-romaine et même ailleurs. Il y a les hommes libres et les esclaves. Il n'y a plus l'homme et la femme, tous sont un en Jésus-Christ. Ça, c'est le credo de Paul et ça va être, au fond, l'axe de sa vie. Alors, à partir de là, on peut comprendre, je regarde l'heure pour savoir que je vous laisse assez de temps pour réagir. À partir de là, on peut comprendre pourquoi, si c'est ça ce que Paul a découvert, il part aussitôt, il quitte aussitôt le monde juif. Alors, pas le monde juif, mais il ne va pas du tout dans le pays juif de Jésus, Judée, Samarie, Galilée. Hein, et même dans la diaspora juive qui s'étend, qui est très importante à l'époque, hein, il y a des juifs partout dans l'Empire romain. Enfin, la diaspora juive, elle est surtout à partir de la Turquie actuelle, vers la Babylonie et au sud, vers l'Égypte. Il y a une diaspora juive jusqu'à Rome, très tôt. Mais les Juifs sont beaucoup plus nombreux dans le sud et l'est, à l'est de l'Empire romain. Or, Paul, lui, va partir vers l'ouest. Là encore, Luc le met en scène dans les Actes des Apôtres. Il dit que Paul voulait faire un crochet à l'est et que pendant la nuit, il a une vision, un Macédonien qui lui dit « Non, non, tu viens chez nous, c'est chez nous qu'il faut venir. » Et crac, Paul est rejeté vers l'ouest. Paul va donc se mettre en marche pour annoncer quoi ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous êtes aimés par Dieu par pure grâce, sans mérite et sans exigence et sans discrimination, dans un pays où les Juifs sont présents, mais moins nombreux, et donc il va s'adresser par priorité à des païens. Et donc, Paul est le premier, même s'il y en a d'autres dans les Actes des Apôtres, qui vont en Samarie, mais la Samarie n'est quand même pas polythéiste, elle croit en Dieu, même s'il y en a qui vont à Gaza, sur la route de Gaza. Voilà. Mais en réalité, il semble bien que Paul est l'un des tout premiers à avoir franchi le pas et à travers, malgré tout, le réseau juif, mais probablement aussi un réseau personnel qu'il avait dans la diaspora et vers l'Occident, à annoncer l'Évangile à des païens qui ne sont pas des juifs, même si un certain nombre d'entre eux sont ce qu'on appelle des craignants Dieu, déjà des gens intéressés, déjà des gens qui se posent des questions. Enfin, ils passent le pas, et le premier probablement à ne pas leur imposer la loi de Moïse, ni même la circoncision. Voilà. Alors, on voit bien du coup qu'il est le premier, j'introduis un grand mot, bon, un peu pédant, mais il est le premier à inculturer le christianisme, parce que ces gens-là, ils n'ont pas entièrement dans leur passé la tradition juive. Ils ne sont pas à l'aise dans la tradition juive, il va donc falloir trouver d'autres mots. Paul parle l'araméen, mais sa langue de peut-être langue maternelle, j'en sais rien. En tout cas, il parle couramment le grec, et la langue avec laquelle il communique, c'est la langue de l'Empire, c'est le grec. Donc, il s'adresse au monde grec, et il va, pour dire ce nouveau christianisme, ce christianisme nouveau plutôt, utiliser des concepts grecs, faire entrer la foi nouvelle, Jésus parlait araméen, ben la faire entrer dans les expressions du monde grec. Ça a déjà été fait un peu par le judaïsme en traduisant l'Ancien Testament en grec, mais ça restait prudent. Tandis que là, on va s'installer déjà dans ce monde grec et donc, quelque part, inculturer la foi chrétienne, inventer des nouvelles formes, inspirées du monde juif, mais quand même des nouvelles formes de partage, de rites, de vie commune, d'organisation. Ça va se faire petit à petit. Alors, le principe de Paul, qui est celui de Jésus, je l'ai dit au début, consiste à rassembler. D'abord, on rassemble. Et donc, on fait ces petites églises, ecclésia, assemblées des êtres libres qui marchent vers la terre promise par Dieu. Le principe de Paul qui consiste à rassembler va donc consister à faire des petits groupes dans lesquels il va prêcher quoi ? Eh bien, le style de Jésus, qui est le style de l'accueil, du soin mutuel, de l'attention, de la... ce que Paul va appeler, c'est lui aussi qui met en route le mot, peut-être même est-il l'un des premiers à l'employer, l'agapé, l'amour du frère, l'amour du prochain. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, mais à mon avis, c'est beaucoup plus facile l'amour du lointain que l'amour du prochain. Parce que le prochain, il est toujours trop lourd. Et au bout de 5 minutes, le prochain, il pèse. Donc, ces toutes petites églises, peut-être pas tout de suite à Thessalonique, mais assez vite, et en tout cas, dès qu'on avance un peu plus en monde grec, elles ont été immédiatement travaillées par des germes de division. Chacun voulant être meilleur que l'autre, plus performant que l'autre, etc. Et donc, nous allons lire cet après-midi, en prenant comme exemple, parce que c'est le plus frappant, Corinthe, à quel point les communautés pauliniennes ont été le lieu de division. Et donc, les lettres de Paul vont consister sans arrêt, à rappeler à l'unité. Le christianisme, sa marque de fabrique, normalement, c'est l'amour du frère. Normalement, c'est l'unité. Or, à peine fondée, les groupes se divisent. Alors, je pose un principe, j'essaierai de l'illustrer dans la journée. Comment est-ce que Paul règle les problèmes de division ? Il y a d'abord une espèce de façon de faire que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, là, mais qui m'apparaît de plus en plus. il gère les divisions en se tirant du milieu. Il était lui-même un facteur de division. Quelqu'un d'aussi passionné, d'aussi entier, d'aussi enflammé, ça ne peut que créer des disputes. Et de fait, ça a créé des disputes. À Corinthe, ça s'est mal passé. Paul a fini par se faire injurier. Il est parti l'oreille basse, etc. Paul rassemble des petites communautés et puis, au bout de très peu de temps, il s'en va. Il s'en va ailleurs. Il le dit lui-même à la fin de la lettre aux Romains. Sa mission, son rôle, c'est d'aller annoncé là où le nom de Jésus n'a pas été prononcé. Donc, on comprend qu'il s'en aille. Et une fois qu'il est loin, il écrit. On a même parlé, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé sur la communication de Paul et qui ont parlé d'un média froid. Alors, vous verrez que les lettres de Paul, ce n'est pas un média froid, hein, parce que c'est des lettres de passionnés, ils hurlent tout le temps. Mais c'est déjà un média, il y a déjà un intermédiaire entre lui et les communautés à qui il écrit. Voilà. La lettre permet à distance de ne pas être immédiatement dans le vif du sujet. Et puis, la lettre montre que Paul ne répond pas comme, au fond, les gens auraient voulu qu'on leur réponde. Au fond, quand les gens se disputent et se divisent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise qui est le plus grand, qui doit être le chef, à qui on obéit finalement. Qui est présidentiable et qui est présidentier. Je veux dire, on voit le truc. Hein. Bon. Et donc ça, ça divise. Bon. Eh bien, Paul ne répond jamais comme ça. Il répond jamais en disant, un tel va être votre chef, vous allez lui obéir, puis après, il y aura tel et tel sous-fifre, et après, il y aura le ministre des Finances, et ensuite, etc. etc. Jamais. Il ne fonde aucune organisation d'église. Aucune. Il s'en va et il laisse les gens se débrouiller. Alors, il donne un certain nombre quand même, non pas de responsabilités, mais il a quand même des gens qui vont être en lien avec lui. Souvent des femmes. Ces communautés pauliniennes sont souvent, au fond, ont souvent en responsabilité des femmes. On verra Chloé à Corinthe qui écrit à Paul. On peut voir Phébé dans la banlieue de Corinthe qui va aller porter la lettre à Rome, donc des femmes qui se baladaient. Il y a des gens qui vont être, au fond, en lien avec lui. Mais sur place, il n'organise pas. Paul n'a pas institutionnalisé d'église. J'allais dire, on verra cet après-midi qu'au contraire. Il laisse les gens se débrouiller à la façon dont déjà les communautés sont organisées. Qu'est-ce qu'il fait pour tenter de résoudre les conflits ? Pour tenter de résoudre les conflits, il commence par, toujours, par ramener ceux à qui il écrit, finalement ses auditeurs, ses lecteurs, il commence par les ramener au centre de la foi chrétienne. Il les ramène au centre. On a parfois dit, Paul répond à des questions dans ses lettres, et puis tout de suite, il y a une digression. Mais non, ce n'est pas une digression, c'est volontaire. Volontairement, il abandonne la question et il vous ramène au centre. Et le centre, c'est quoi ? C'est Jésus-Christ serviteur, Jésus-Christ crucifié, ce que Paul va appeler, on le verra cet après-midi, la parole de la croix. Voilà. Il les ramène devant la croix du Christ. Il leur dit, d'abord vous commencez par contempler, par méditer, par réfléchir, par revenir à ce qui est le principe même de votre foi, mort et ressuscité pour vous. Et après, on verra pour gérer vos affaires. Déjà, autrement dit, il les secoue suffisamment en les remettant devant l'essentiel pour espérer qu'ensuite, ils auront compris et qu'ils vont trouver les moyens de s'accorder. Mais ce n'est pas lui qui les accorde entre eux. Il donne quelques conseils, toujours, mais ces conseils sont très pragmatiques. C'est-à-dire qu'au fond, il donne le conseil qui convient à telle configuration d'église et pas à tel autre. Autrement dit, chez les Galates, qu'on va voir tout à l'heure, les Galates d'Asie, du milieu de la Turquie, qui sont des gens qui viennent du paganisme, qui ont peur d'un peu de tout, qui ont peur des divinités, qui ont peur des représailles, qui veulent vraiment des signes qui sont chrétiens, il va faire un grand appel à la liberté. Mais libérez-vous de tout ça. Vous êtes appelés à la liberté. C'est à la liberté que le Christ vous a appelé. La liberté pour servir, mais quand même la liberté. Chez les Corinthiens, qui sont des des enthousiastes, pour ne pas dire des excités, qui ont très bien compris qu'ils étaient libres, 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 surtout libres de prendre le pouvoir et de taper sur la tête des autres. Chez les Corinthiens, il va prêcher au contraire la parole de la croix, l'attention aux plus démunis, aux plus faibles, à ceux qui sont les moins considérés, et il va leur dire d'abord les autres. Faites attention d'abord à l'autre. Donc on a souvent l'impression que Paul se contredit. Il ne se contredit pas, il agit en pasteur. Il est pragmatique et il ne donne pas les mêmes conseils aux uns et aux autres. Mais dans tous les cas, Paul invite à la liberté. Et ça, c'est, à mon avis, le point central. Si vous partez ce soir avec l'idée que Paul n'est pas un affreux doctrinaire, rigoriste, misogyne, incompréhensible, mais que c'est, au fond, l'apôtre qui annonce l'amour de Dieu donné à chacun sans discrimination par pure grâce et l'appel à la liberté inventée, votre façon de vivre la foi, ben, j'aurais pas perdu ma journée. Voilà. Ceci dit, je vous donne la parole. On va prendre un petit temps de questions et puis une petite pause avant de continuer. Alors, est-ce que vous êtes... D'abord, est-ce que c'est compréhensible ce que je vous ai raconté ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas ? Ça peut être flou, pas clair, même si on est quand même dans l'ordre de la foi, donc dans quelque chose d'un peu mystérieux, mais bon. Ou des choses qui ne vous conviennent pas, ou des questions, voilà. Non, vous êtes... Bon, vous voulez rien d'autre. Alors... Ah oui. Eh bien, c'est vous. Alors, la question, c'est est-ce que le christianisme pouvait rester finalement confiné, même si le mot a pris d'autres résonances, au Moyen-Orient, ou est-ce que nécessairement, puisque Rome était le centre de l'Empire, fallait-il qu'il aille à Rome ? La réponse, c'est celle des Actes des Apôtres, qui, dans la, avant que Jésus ne disparaisse, avant qu'ils aient complètement compris qu'il fallait aller ailleurs, fait donner par Jésus à ses disciples le programme de la mission, acte 1, 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Or, les extrémités de la terre, ce n'est pas Rome, mais Rome, comme vous dites, c'est le centre. C'est le cœur battant de l'Empire. Au-delà, au-delà, ce ne sont même plus des, comment dire, ce ne sont même plus des Grecs. Ce sont des barbares, parce que quand ils parlent, on entend barbare et on ne comprend rien. Voilà. Donc après, le christianisme franchira aussi ces limites-là. Il va mettre du temps. Hein. Il va mettre du temps. Il arrive en Gaule assez tard, enfin, fin du courant du IIe siècle. Il va passer la barrière du monde syriaque vers l'Est plutôt au IIIe siècle. Mais effectivement, s'il voulait mettre en œuvre un message universaliste, le moyen de l'époque, c'était d'aller au centre de l'Empire. Alors, ce que ça projette ? Ça projette le fait que, 4 siècles plus tard, je ne sais pas si c'est un triomphe, hein, c'est peut-être aussi une défaite, enfin, le triomphe du christianisme sera la conversion de Constantin, en tout cas de Théodose, au début et fin du IVe siècle, et l'Empire devenu chrétien. Là, on aura d'une certaine façon atteint les limites de la terre avec le risque majeur d'avoir fait du christianisme une religion politique et d'avoir peut-être défiguré. Bon, mais on est avant ça. Hein. Mais effectivement, c'était bien Rome qui était pendant des siècles le centre moteur. Et oui. Eh bien, ah ben, Luc, ce n'est pas un disciple de Jésus. Luc, c'est tard. C'est tard. Eh bien, pourquoi on connaît... Mais moi, je veux bien vous parler de Pierre, mais ça sera assez vite fini. Puisque Pierre, vous avez les évangiles, où la figure de Pierre, on peut la suivre. Elle est à la fois honorée et très peu reluisante, puisqu'il finit par renier. Luc propose un échange de regards entre Jésus sortant du prétoire et Pierre qui l'a renié, et un pardon de Jésus à Pierre. Je veux bien, mais enfin, le Pierre des évangiles, il n'est pas brillant. En même temps, on voit bien qu'il est quand même, il a très vite pris figure de témoin privilégié, de premier témoin. Puisque dans l'évangile de Marc, on a cette envoi des femmes à aller dire à Pierre et à ses disciples. Les disciples de Jésus. Aller dire à Pierre et aux autres. Donc il y a bien effectivement une priorité, une mise en valeur de Pierre qui est à la mesure d'une figure extraordinairement maltraitée. Marc maltraite beaucoup la figure de Pierre. Jésus lui dit « arrière Satan », il renie, il n'y a pas grand-chose. Et puis il y a ce « aller dire à Pierre ». Alors, ensuite, comment on suit Pierre ? Ben, on le suit comme Paul à travers les Actes des Apôtres. Alors on a les 10, 11, 12 premiers chapitres des Actes des Apôtres qui ne nous apprennent pas grand-chose. Il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette nécessité d'un retournement de Pierre. À quelle occasion ? Alors la vision, etc. Je veux dire, Luc il met en scène, il met en scène dramatique. D'un retournement de Pierre pour qu'il comprenne qu'il doit passer le pas au-delà du judaïsme pour aller aux païens. Mais ensuite, Pierre il disparaît. Au chapitre 12 des Actes, Pierre, qui a été emprisonné N plus une fois, il y a une scène qui est assez extraordinaire, qui a d'ailleurs inspiré les peintres, où vous avez Pierre qui est délivré de la prison par un ange. Il y a un fracas, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, l'ange du Seigneur apparaît et dit à Pierre, allez, sors. Bon, c'est une résurrection. Hein. Et on voit Pierre sortir, c'est assez bien fait. Il sort et visiblement, il est complètement ailleurs, complètement sonné, puisqu'il y a deux ou trois, vous n'avez qu'à le lire, il y a deux ou trois mots qui disent quand il retrouve ses esprits, quand il s'est un peu repéré, voilà. Pierre, il est passé d'un autre côté, là. Bon. Il sort, il va frapper à la porte d'une femme qui avait réuni chez elle la petite église chrétienne. La mère de Marc, qu'on appelle aussi Jean, on a dit c'est l'évangéliste, on n'en sait rien, c'est possible. Et il lui raconte ce qui lui est arrivé. Puis dit le texte, Pierre s'en alla par un autre chemin. Moi j'ai eu une fois un étudiant qui était un prêtre irakien, il y a longtemps de ça, c'était au moment de la guerre d'Irak, je suis une vieille dame, et qui était ici, réfugié, qui parlait araméen, et qui m'avait dit que dans son village... S'en aller comme ça vers un autre lieu, c'était l'expression de la mort. Il s'en va vers un autre lieu. Donc, d'une certaine façon, au chapitre 12, Luc enterre Pierre. Ceci dit, il le fait réapparaître au chapitre 15 pour tenir la position de Paul. Alors, est-ce que Pierre est resté là ? Est-ce qu'il est parti ? Moi, je crois qu'il est parti. Il y a eu une mission de Pierre. La tradition chrétienne situe Pierre à Rome, sous Néron, dans les années 60-65, et considère que Pierre est mort au moment de la persécution ou dans ces eaux-là de Néron contre les chrétiens. Néron n'a pas, il n'y a pas eu une persécution généralisée. Hein. C'était atroce, mais enfin, il y en a eu une douzaine de chrétiens qu'on a brûlés comme ça, comme des torches. Ce n'était pas drôle pour eux, mais ça n'a pas été tous les chrétiens. Il y a une douzaine d'excités qu'il a pris Pierre avec, on ne sait pas. La tradition veut que Pierre soit mort là. Sinon, de Pierre, qu'est-ce que vous avez ? Les deux lettres attribuées à Pierre, dont la première est une grande lettre, mais qui s'adresse aux chrétiens du nord de la Turquie actuelle, jusqu'au Pont Euxin, jusqu'à la mer Noire, et qui est très intéressante, mais qui n'est pas originale, qui a un enseignement très marqué par celui de Paul. Et la deuxième lettre de Pierre, que vous lisez certainement pas tous les matins, c'est une lettre qui est tardive, probablement au cours du IIe siècle, qui rappelle Pierre en rappelant l'épisode de la transfiguration, en disant, voilà, nous nous référons à ce Pierre qui a été le témoin du Christ transfiguré et qui en gros clôt les Écritures en disant que désormais il fallait lire les Écritures, non pas tout seul d'ailleurs, et notamment il faut lire les lettres de notre frère et ami Paul, qui a dit les mêmes choses que nous, mais ne pas les lire tout seul, car quand on les lit tout seul, les lettres de Paul, on s'enferre et on finit par dire des bêtises. Donc il trouvait déjà que Paul, c'était compliqué. Il faut le lire ensemble. Mais vous n'avez pas Pierre là-dedans. Vous avez une tradition pétrinienne qui se réclame fermement de Pierre, là, pour dire, en gros, la fin des temps n'est pas arrivée comme vous le croyez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à l'attendre. Ne dites pas tout cela était faux parce que la fin des temps n'est pas arrivée, alors le jour du Seigneur va arriver, etc. Dieu est patient, pour lui 1000 ans c'est comme un jour, il y a des tas d'arguments. Et l'argument final c'est, de toute façon, le Seigneur n'est pas en retard pour venir selon sa promesse, mais il patiente en attendant que vous vous convertissiez tous. Donc il peut patienter quelques millénaires. Voilà. Et donc voilà, sur Pierre, moi je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Et Jacques de Jérusalem, qu'est-ce qu'on en sait ? Maintenant, on a fait des beaux livres dessus. Simon Mimouni a fait un beau livre sur Jacques de Jérusalem. On le voit à travers le... le livre magnifique qui s'appelle « Jude, frère de Jésus », Jean Dernagor. François Jean Dernagor a fait un roman absolument magnifique, que j'adore, sur Jude, frère de Jésus, où elle travaille beaucoup le personnage de Jacques. Mais on a... C'est sur des pointes d'épingle, on a peu de choses, on a très peu de choses. On a ce que nous disent les actes des apôtres, donc on le voit au chapitre 15, et c'est tout. Ce que nous dit Paul, c'est citer son nom une ou deux fois et voir qu'il ne l'aimait pas du tout, que c'était un conflit ouvert. Et on a la notice de Flavius Joseph qui dit qu'il est mort en 62, lapidé par les grands, à l'instigation des grands prêtres, alors que les pharisiens n'étaient pas d'accord. C'est tout, on ne sait rien. Tandis que Paul, on a un corpus de lettres important qui, en plus, permet de bien cibler, décrire le profil d'un certain nombre d'églises chrétiennes, de petites églises, et ses relations avec elles. Ah ben oui, Matthieu dit tu es Pierre. Paul a jamais rencontré Jésus et ça va lui être reproché. Un des grands trucs de Paul, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'on lui a dit mais t'es pas un vrai, t'as jamais connu Jésus selon les jours de la chair. Alors lui, il crâne, il dit mais bien sûr, mais maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair, nous sommes des hommes de l'esprit. Il crâne, mais c'est vrai, il a jamais rencontré Jésus. Alors pourquoi Pierre ? Moi j'ai pas une théorie, j'explique en fait ce que vous venez de dire, c'est massif. Pourquoi ? Parce que si Paul lui-même n'était pas revenu à ce socle qu'étaient les premiers témoins de Jésus dans les jours de sa chair, comme on dit, on n'aurait pas eu un christianisme ancré dans le judaïsme, on n'aurait pas eu un christianisme fondé sur le principe d'incarnation, on aurait eu une gnose, une spiritualité, New Age ou machin, tout le monde il est bon et tout le monde il est gentil, excusez-moi à la Frédéric Lenoir que je n'aime pas, parce que tout va bien et ça baigne, mais non, tout ne va pas bien et ça ne baigne pas. Et la foi chrétienne, c'est pas à ça qu'elle essaye de répondre, mais c'est ça qu'elle prend en charge avec ce Jésus et ce Pierre qui sont des Juifs du 1er siècle dans la petite Galilée vraiment marginale dans l'Empire romain. Est-ce que vous prenez un quart d'heure pour prendre un café ?